France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Bonsoir Lionel, au plaisir de vous retrouver demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, tapage nocturne. France Musique.
Et notre invitée sera la pianiste et compositrice Eve Risser, musicienne qui cultive un imaginaire sonore surprenant, esquissant avec magie des itinéraires immobiles. Mais ouvrons cette émission avec notre page phonographique et notamment avec une madeleine sonore, celle que nous proposait le New Band en 1990, avec un répertoire réunissant John Cage, Harry Parch et Dean Drummond. Ce dernier est non seulement interprète et compositeur, mais également concepteur d'instruments. Adepte de la microtonalité, tout comme Harry Parch dont il fut l'assistant, il développa en 1978 le zoomusophone, un instrument fait de 129 tuyaux et donc de 129 notes accordées en microtonalité. En 1990, il enregistre Two Studies on Ancient Greek Scales, une œuvre d'Harry Parch qu'il composa en 1946, originellement pour son canon harmonique, un plateau de cordes pincées et son marimba basse. Dean Drummond l'a adapté pour flûte et zoomusophone en 1978.
Thank you.
To Studies on Ancient Grayscales, une œuvre d'Harry Partch qu'il composa en 1946, mais dans la version proposée par Dean Drummond et son mystérieux zoomousophone, et Stéphane Estarine à la flûte, un enregistrement de 1990 paru sur le label Mod Records. Alors François, avec quoi venez-vous ce soir ?
Je vous propose d'écouter un extrait d'une nouveauté toute chaude, un double CD consacré à Bernard Parmigiani et qui s'intitule « Matière première ». Ce double CD se constitue d'un premier disque présentant des pièces inédites et d'un second, très étonnant, composé de courtes séquences exploratoires jouées et enregistrées par Parmigiani lui-même. Ce qui a frappé Christian Zanesi, l'initiateur de ce disque, à l'occasion de l'écoute de ces éléments issus de la sonothèque du compositeur, et qui ne sont ni des œuvres ni des miniatures autonomes, c'est que le son et la musique, entre guillemets, de Bernard Parmigiani étaient déjà présents. Ce qu'il y a d'émouvant dans ces extraits, c'est l'immédiateté sonore de Parmigiani et ce sentiment de proximité, comme d'être assis sagement à côté du compositeur alors que celui-ci règle ses machines, les triture, essaie, recommence et, à certains moments, lorsqu'il est satisfait, enregistre et élabore. Nous écoutons quelques-unes de ces matières premières par Bernard Parmigiani. Thank you. Nous venons d'écouter quelques matières premières issues du double CD consacré à Bernard Parmigiani du même titre, édité par Lina GRM.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Evrisser fait partie de la caste des artisans discrets qui aiment créer dans l'ombre et savent se fondre dans un groupe. La jeune pianiste flûtiste l'a prouvé avec le collectif Umlaut, l'Orchestre National de Jazz version Daniel Ivinek ou le duo Donkey Monkey. Un musicien doit savoir et pouvoir s'effacer derrière les sons. Sa nouvelle aventure sonore, à la tête de son White Desert Orchestra, a donné naissance à une sorte de bande originale imaginaire des canyons des États-Unis. Un hymne aux sensations que provoquent ces espaces immensément vides. Une expérience de l'ordre du physico-chimique réalisée par 10 complices venus du Surnaturel Orchestra et de l'électroacoustique norvégienne. Mais c'est en duo avec Antonin Driwong au saxophone qu'elle nous rend visite ce soir dans une version minimaliste de son White Desert Orchestra. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez traversé l'histoire récente de l'ONG, de l'Orchestre National de Jazz. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience ?
Un son de groupe, surtout sur 5 ans. Quelque chose qui a évolué humainement et soniquement. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare. Pouvoir tourner 5 ans avec un orchestre de 10 personnes en jazz. Aussi, l'expérience de me mettre au service de quelqu'un. J'arrivais pas toujours à le faire bien. Je crois que j'avais souvent envie de faire mes machins. Du coup, ça m'a appris à essayer de faire cette différenciation entre rester soi-même, se mettre au service, aller un peu trop loin, se donner trop et s'oublier, vouloir trop garder ses choses à soi et pas donner assez. Je garde le souvenir aussi d'avoir eu l'expérience de travailler dans des super conditions de son et sur des très bons instruments, avec des très bons ingé-sons aussi. Et du coup, l'expérience du live m'a vraiment donné les moyens de connecter avec d'autres manières de jouer. Grâce à cette bonne qualité, enfin quelque chose de pouvoir travailler dans des très bonnes conditions, peut aussi amener à développer le son de différentes manières. Alors aussi, moi j'avais l'habitude de jouer beaucoup en acoustique, tout d'un coup j'ai pris un jeu beaucoup plus en sonorisation, et maintenant j'essaie de voir comment je peux jongler entre ces deux manières de jouer aussi en les gardant. Mais ça peut être aussi un conditionnement de toujours jouer sur des très bons pianos dans des très bonnes salles avec du très bon son, enfin plus ou moins. Et qu'après, on se retrouve de nouveau. Enfin, moi, je sais que quand je fais du solo piano, j'essaie de jouer dans des salles assez petites aussi. Quand je fais du solo de piano préparé, et pour vraiment pouvoir jouer acoustique et jouer avec la salle. Si la salle est plus grande et qu'elle est plus sonorisée, j'aurais plus tendance à travailler sur le clavier. Voilà, c'est comme ça que, empiriquement, j'ai eu l'impression d'expérimenter des choses dans l'ONJ.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Pouvez-vous nous parler de votre nouveau projet White Desert Orchestra ?
Desert Orchestra a mis 7 ans à émerger de mon cartable. C'est un peu une extension de ce que je fais déjà au piano préparé, mais envie de le dire à plusieurs. Et j'aurais pu vraiment choisir une forme improvisée, mais j'avais vraiment envie de travailler la composition pour ce projet-là. Aussi parce que c'était parti d'un objectif qu'on avait à la fin du CNSM, du Conservatoire de Paris. On devait écrire pour Tentet. Cette expérience m'avait intéressée parce que j'ai fait aussi pas mal de musique improvisée, complètement improvisée en orchestre. Et pour moi, composer, c'est en improvisation, quand je me mets à faire une écriture orale, une petite composition, une petite forme de composition. Je fais des choix, où je travaille avec des gens qui aiment bien faire des choix et on élague pas mal, jusqu'à sculpter à l'écriture note à note pour certaines pièces. j'avais envie de dire des choses assez précises et des émotions que je voulais transformer en son. Et j'ai laissé parler le corps. Et pour ça, je l'ai laissé parler à la maison. Et j'ai fait ce que fait un compositeur, c'est qu'il travaille d'abord à la maison, puis il montre la pièce ensuite. Alors qu'en improvisation, j'essaie vraiment de sentir l'instant et jouer en concert donc avec mes copains. Sur le travail de l'orchestre, on a des pièces plus ou moins écrites, plus ou moins précisément. Et j'ai aussi essayé de jongler avec chaque pièce, avec différentes manières d'écrire. Donc il y a des pièces qui sont écrites en toutes notes, et sur le logiciel Sibelius pour avoir une précision rythmique. Et certaines autres sont écrites à la main, comme ça si j'ai envie de passer vers du dessin, tout d'un coup je peux. Il y a des pièces qui sont sous forme de puzzle. La pièce Fumerolles, elle est sous forme de puzzle. J'ai juste mis 3 éléments à jouer aux musiciens et je leur proposais d'évoquer une photo que je leur montrais d'une fumée de soufre qui émane du sol en Islande. J'essaie de donner des intentions donc imagées, essayer de jouer comme si vous étiez de la fumée. Je jouais de la transparence, d'être presque présent mais pas. Et ça, à 10, en fait, on joue vite trop. Du coup, c'est une expérience assez intéressante à faire, assez s'effacer à 10. Et puis des pièces carrément écrites de manière jazz, avec juste 2 pages, des éléments d'écriture à placer sous forme de boîte à différents moments de la pièce. Et du coup, ça, de faire différentes manières d'écrire, ça me permettait de tester différentes choses avec les musiciens. Du coup, c'est vrai que si je devais continuer maintenant, je pourrais éventuellement partir sur plutôt une des idées qui a été les plus probantes pour moi. Donc c'est pour ça qu'il y a des pièces encore assez différentes dans ce premier disque de l'orchestre. Pour présenter les origines de ce projet, c'est que je voulais vraiment transformer des émotions en musique. Et il y a eu cette expérience aux États-Unis dans le désert blanc, le désert de neige. Au Nouveau-Mexique, je ne savais pas qu'il neigeait l'hiver. Et un désert entier recouvert de blanc, c'est assez impressionnant, quoi. C'est comme une page A4 blanche.
Une grande page.
Voilà, c'est une grande page de solitude dans l'espace blanc. Ça a vraiment fait émerger pour moi des choses à cette époque-là que j'avais besoin de mettre en musique. Et maintenant, je remarque souvent que je fais des projets musicaux suite à des chocs émotionnels. Alors, c'est pas du tout un concept, mais je le remarque maintenant que j'ai vieilli un tout petit peu, que en fait, je les ai faits à chaque fois. Donc voilà, c'est un truc de musicien un peu malade.
Aujourd'hui, dans Tapage Nocturne, vous venez en duo, donc avec Antonin Trio Wang. Comment s'est passé ce travail et qu'est-ce que vous proposez pendant cette émission ?
Je voulais vraiment profiter de cette émission pour présenter cet orchestre qu'on fait depuis 2 ans. Et Antonin m'accompagne aussi dans cette aventure et dans l'orchestre. Et en fait, avec Antonin, on se connaît depuis 10 ans et on a un duo aussi. Et vu qu'ici, il fallait faire une forme réduite de l'orchestre, je me suis dit que je voulais aller au plus simple, au plus direct, avec une manière de travailler qu'on a déjà en duo, mais en jouant la musique de l'orchestre. Donc, je sais pas si c'était Antonin.
Oui. C'était peut-être le plus simple, parce que comme on avait déjà pas mal travaillé, après, la musique est assez différente, même très différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Avec en tête l'orchestre, faire une sorte de réduction d'orchestre, comme on dit, à deux.
Oui,
ce qu'on va essayer de faire.
On va essayer de faire sentir qu'on est plusieurs, qu'on est plus que deux. En tout cas.
Là, vous êtes adepte et spécialiste du piano préparé. Comment vous organisez cette extension timbrale ?
Moi, je me suis organisée par goût. Donc, je suis allée vers des sons qui me plaisaient à moi, qui résonnaient pour moi. Et donc, je suis allée vers des choses comme dans l'écriture orale. J'ai fait des choix, j'ai éliminé des choses, j'ai essayé plein de choses. Et puis, c'est ça que je continue de faire. Puis, ça évolue tout le temps, puisque si mes goûts changent... Et aussi, l'organisation de leur existence a été vachement due aux rencontres. Donc, en testant, en faisant des sessions et des concerts avec les autres. Il n'y a qu'en jouant avec les autres que je trouve des nouveaux sons. Parce que de moi à moi, ça ne circule pas très loin, c'est pas très intéressant. Puis mes goûts, c'est vachement limité. Enfin, tout est très limitant dans le travail que soliste, de solo. Le solo est venu dans un deuxième temps. D'abord, c'était vraiment expérimenter avec des gens. Il y a vraiment toute une période où je voulais vraiment être un instrument avant. J'avais été flûtiste et je voulais vraiment chercher des sons longs dans le piano. Donc, j'étais omnibulée par trouver des sons entretenus. C'était carrément l'inverse de ce qu'offrait la possibilité du piano. Et j'ai compris vachement plus tard que je pouvais essayer de jouer de cet orchestre-là. Parce que j'essaie de trouver une magie sonore. Et je pense qu'il y a une magie sonore intrinsèque à chaque instrument et à chaque instrumentarium. Et je pense que la magie du piano, c'est quand même vachement d'être dans des multicouches et dans des... Enfin, moi, ça vient me toucher là, ce multitâche que j'aime bien même dans la vie, c'est être en train de faire plein de choses en même temps et avoir trouvé des endroits où l'analyse est plus vraiment possible et puis on se laisse aller et on échappe un tout petit peu à la notion de quelque chose fait par l'homme. On essaie de j'aime bien travailler avec Joris Ruhl là-dessus, sur les illusions sonores, parce que pour moi, c'est une forme de virtuosité. Finalement, je suis pas du tout dans le sport de la musique, mais pour moi, une des virtuosités de la musique, c'est la magie, c'est l'illusion. Et ça, je crois que au niveau du sport et du circassien, dans la musique, c'est une dimension que, enfin, c'est la seule qui moi m'intéresse. C'est cette petite magie de pas comprendre comment ça marche et de pouvoir quitter aussi l'analyse trop mentale.
Thank you.
suivi un long cursus musical, de Colmar à Paris en passant par Strasbourg. Quel regard portez-vous sur toutes ces années d'apprentissage ?
Eh ben, en tout cas, on apprend beaucoup ce qu'on a à chercher ce qu'on aime quand on fait des trucs qu'on aime moins. Et moi, j'ai pas mal galéré à trouver ce que j'aimais faire, et parce que j'étais capable de me forcer très très loin dans certaines directions. Et ça a été très riche. Ça a été très riche, mais j'ai vraiment testé beaucoup de choses, quoi. J'ai vraiment fait du classique, vraiment vraiment beaucoup, en flûte traversière, orchestre symphonique, musique de chambre, en piano, musique de chambre. Toute la formation musicale, puis après musique contemporaine à Strasbourg. Et en fait, je cherchais vraiment, je voyais que quand je prenais j'empruntais des disques de musique contemporaine, il y en avait peut-être trois dans la bibliothèque municipale de Colmar. Il y avait un disque de Boulez, il y avait peut-être un disque de Schaeffer, je sais plus. Mais je me disais, ah, mais vers ces musiques, c'est comme si le fait que les compositeurs soient vivants, il y avait presque plus de dialogue avec les interprètes vivants, et il y avait peut-être quelque chose de vivant où il y avait peut-être un moyen de faire des choses. De dire des choses soi-même. Enfin, moi, je m'interdisais complètement de m'exprimer trop, parce qu'à chaque fois que j'essayais de proposer à un professeur une nouvelle interprétation d'une œuvre, je me disais, mais t'es qui pour vouloir me proposer ça ? Donc, c'est vrai, je me disais, c'est vrai, je suis qui pour proposer ça ? Mais en même temps, je m'emmerdais un peu, donc j'avais envie d'essayer des trucs, quoi. Et bon, j'avais des profs aussi sympas qui me disaient, oui, bon, je peux pas trop t'amener ça, mais... Je comprends. Donc, bon, bah, voilà. Donc, j'ai un peu vidé la bibliothèque de Colmar, qui maintenant doit être beaucoup plus fournie. Mais... Et à Strasbourg, alors là, il y avait beaucoup de. C'était très vivant, parce qu'il y avait Marie-Claude Ségard qui dirigeait le conservatoire et qui proposait donc à des profs de vraiment toutes sortes, d'être dans le département des musiques improvisées, département jazz, département des musiques baroques, il y avait même des cours d'électroacoustique, il y avait toute cette classe tenue par Armand Angster qui faisait jouer les œuvres des élèves d'Ivan Fedele, donc il fallait toujours des gens pour créer les pièces. Et déjà, le fait de rencontrer des compositeurs en vivant, j'avais l'impression que je pouvais dire « Ah bah sur ma flûte, tu peux faire ça », et j'avais l'impression de contribuer un tout petit peu à la création. Par rapport au regard que je porte, moi, ce qui m'a le plus vraiment... J'ai senti que le déclic s'est vraiment fait dans la classe de Rafi Urganjan, qui est un élève de Messiaen, et qui a proposé de faire des improvisations complètement libres, avec des formes à respecter aussi, de temps en temps, des exercices, mais sinon des improvisations vraiment libres. Et là, je suis allée, il n'y avait qu'un clavecin et des copains, et on a joué. Et à la fin, j'avais joué une musique complètement libre, complètement inventée sur le moment. Et il y avait une personne de 60, presque 10 ans qui me disait bah, c'est super. Et là, j'ai vraiment rien compris, quoi. Je me suis dit, là, j'ai loupé un truc pendant 20 ans, je suis passée à côté d'un truc. Ouais, enfin, personnellement, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Moi, j'avais quelque chose dans le ventre qui avait besoin de s'exprimer plus. Donc, plus la musique offrait de la marge d'interprétation ou de la créativité, je me sentais à l'aise. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que j'ai vraiment pris la porte. D'un nouveau monde, quoi.
Thank you.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne.
France Musique.
Il y a beaucoup de femmes dans cet ensemble.
Il n'y en a pas beaucoup.
Merci beaucoup.
Il y en a juste 4.
Ce qui est plus que la moyenne habituelle.
4 malheureusement. Sur 10. Mais j'ai failli en mettre 5, mais je voulais vraiment ce trompettiste. Alors. Parce que à la fin, j'avais les 9 personnes et il fallait encore une trompette. Et je connais pas mal de trompettistes femmes et je voulais vraiment ce trompettiste. Donc j'ai pas fonctionné non plus en discrimination positive du tout. Mais je travaille avec pas mal de femmes et de manière générale. J'ai pas de problème à y penser, enfin, c'est vraiment naturel. Je travaille avec des gens qui m'intéressent et de temps il y a beaucoup de femmes. Alors je ne sais pas, je pense que j'ai des atomes crochus avec ce qu'elles font aussi. Et je ne sais pas pourquoi il y en a pas. Enfin, il y en a moins que des hommes dans ce milieu, hein, c'est ce qu'on dit, mais maintenant il y en a quand même pas mal qui font des trucs et je pense que certaines personnes pourraient aussi y penser, juste y penser, parce que moi je pense bien mettre des hommes dans mon orchestre. Donc je pense en fait c'est juste comme dans la vie quoi, penser aux deux, un peu tout le temps penser à ces deux pôles, chercher l'équilibre quoi et pas s'arrêter au moment de faire un groupe. Quoi. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas Evrisser d'être venu dans ce tapage nocturne.
Merci à vous.
Merci Antonin également.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt. I'm
Ainsi se ferme ce tapage nocturne. À la technique étaient Cédric Châtelut et Stéphane Touvenin, attaché d'émission Soizic Noël, chargé de réalisation Bruno Riumaillard. Il est temps maintenant de rejoindre Anne Montaron et son Al Abrévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.